Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Nous avons vu dans l'émission précédente avec Michel Marcellin combien il était difficile parfois d'accepter une vérité. Car notre capacité à accepter une thèse, fût-elle scientifique, ne dépend pas seulement des preuves rationnelles qui l'accréditent, mais aussi de l'enjeu affectif attaché aux conclusions de cette thèse. Pensons à Copernic et l'héliocentrisme, ou à Alexander Friedman pour l'univers en expansion. Mais l'histoire est une science humaine, et l'historiographie est l'étude de la façon dont on écrit justement cette histoire. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir René Drey-Bentoussan pour cette émission que nous appellerons « Peut-on parler de vérité historique ?» ou « Comment construit-on l'histoire ?» René Drey-Bentoussan est historienne, agrégée et docteur en histoire contemporaine et académicienne. Elle est présidente fondatrice de ARES, Association pour la recherche et l'enseignement de la Shoah. Bonjour René et merci d'être avec nous.
Bonjour, je suis ravie d'être là parce que contente pour une raison très importante, c'est que cette émission reprenne.
Merci René. Alors, ma première question sera la suivante. Peut-on parler de vérité historique ?
Tout dépend de ce qu'on entend par la vérité. Si c'est la vérité, non, elle n'existe pas. Si c'est une des vérités, oui, elle existe. Mais il n'empêche que cette vérité dépend beaucoup de celui qui construit cette histoire.
Alors, tu viens de dire, René, de celui qui construit cette histoire. Comment construit-on justement cette histoire ?
L'histoire est une construction humaine qui évolue avec le temps, et parce qu'on peut découvrir de nouvelles archives, on peut poser de nouvelles questions. Donc si on résume, ça dépend en gros de la découverte d'archives nouvelles et de l'utilisation d'un nouveau questionnement.
Alors la dernière fois, justement, tu m'avais dit, lors de la préparation de l'émission, ça dépend aussi des nouvelles problématiques. Oui, tu peux me donner un exemple ?
C'est l'ensemble des questions qu'on se pose à propos d'un temps donné. Elle peut changer, ça peut changer la problématique. Au lieu de poser la question simplement du fait brut, on peut poser la question de savoir ce qui se cache derrière cette ce fait brut, et donc par là même on s'intéresse à une question qui nous intéresse à nous maintenant en l'an 2022 et qui n'intéressait pas forcément l'historien qui a construit cette histoire en l'an 1500.
Et se poser ces nouvelles questions vient ajouter à cette vérité historique.
Oui, ça la complète parce que l'histoire, c'est un troisième phénomène qui caractérise l'histoire. D'abord, l'histoire, c'est une construction humaine à partir de traces. C'est ce qu'on appelle les archives ou les sources. Ensuite, cette construction dépend des questions qu'on pose parce qu'on ne trouve que des réponses à des questions qu'on s'est posées. Ou parfois, on trouve une réponse sans avoir posé la question, mais c'est un pur hasard. Un peu comme en science, exactement comme en science. Donc, voilà pour... Et puis, ça dépend d'une troisième chose. J'ai dit la découverte de l'archive, les nouvelles problématiques, l'évolution des découvertes de science, parce que les sciences... notamment les sciences physiques, les sciences électroniques, les sciences informatiques, peuvent aider à creuser un peu plus les problématiques.
On fait une petite pause musicale.
qu'au-delà des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris, parle toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon? Qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Nous avons écouté cette pause musicale. Je pense que tout le monde a reconnu ce que c'est ton choix, René. C'est Joséphine Baker dans J'ai deux amours.
J'ai deux amours, oui.
C'est un choix qui n'est pas venu comme ça, il y a une raison.
C'est pas un choix neutre. C'est un choix qui montre l'évolution qu'on a de la perception d'une femme comme Joséphine Baker. Pendant longtemps, on a vu en elle que la danseuse, que la chanteuse, que la meneuse de revue avec une ceinture de peau de banane alors qu'elle était nue. Et maintenant, on voit en elle, puisqu'elle est rentrée au Panthéon pour ça, on voit en elle une résistante. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire appel à cette chanteuse.
Merci. Alors, nous avons parlé justement de cette construction de l'histoire. Quelles sont les sources utilisées par l'historien ?
Alors, les sources, je rappelle, c'est les traces du passé. Hein. Donc, l'historien, il faut l'imaginer comme un policier qui accumule des preuves. Et les preuves, ce sont les traces. On a l'habitude de classer les sources en deux grandes catégories, les sources écrites et les sources non écrites. Parce que on fait démarrer l'histoire avec l'invention de l'écriture. Avant l'invention de l'écriture, vers 3500 ans avant Jésus-Christ, on ne parle pas d'histoire, on parle de préhistoire ou de proto-histoire. Donc c'est avec l'invention de l'écriture qu'on arrive à construire l'histoire. Cette invention de l'écriture, on a de multiples exemples, inventée en 3500 ans avant Jésus-Christ, ça peut être les hiéroglyphes, ça peut être l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire avec des pointes, et par exemple notre ancêtre Abraham a dû connaître l'écriture cunéiforme. Et enfin, une dernière venue dans les types d'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture proto-sinaïtique, dont on a trouvé des éléments sur des tessons dans le désert du Sinaï. Donc, invention de l'écriture permet l'advenue de l'histoire. Et nous allons donc passer aux sources écrites.
S'il te plaît, René, avant de passer aux sources écrites, est-ce que, par exemple, les dessins, les gravures qu'on retrouve dans les grottes font partie des sources historiques ?
Elles sont tout à fait des sources historiques, mais elles ne sont pas des sources écrites.
Non, justement.
Parce qu'elles font partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les sources non écrites.
Très bien.
Alors, dans les sources écrites, il faut travailler sur l'écriture et être certain que le peuple dont on analyse l'histoire a bien vécu à l'époque de l'invention de l'écriture. Par exemple, il y a des contre-exemples. Par exemple, on parle de l'histoire des Gaulois. Les Gaulois n'avaient pas d'écriture. La seule écriture qu'on connaisse chez les Gaulois, c'est l'écriture des Romains. Alors, avec la colonisation romaine est arrivée, l'introduction de l'histoire. Mais il n'empêche qu'on parle de l'histoire des Gaulois. Ça, c'est un peu une exception franco-française. Donc, je disais que quand on analyse un texte, alors prenons un exemple simple. Une tablette en argile, écrite en cunéiforme, puisque c'est à Sumer, c'est-à-dire ce qui correspond à l'Irak aujourd'hui, entre le Tigre et l'Euphrate, se multiplient ces tablettes qui racontent beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il faut d'abord commencer par déchiffrer le cunéiforme. Pour les hiéroglyphes, on a un exemple fameux, c'est l'exemple de Champollion, qui a la chance de trouver ce qu'on appelle, près d'Alexandrie, ce qu'on appelle la pierre de Rosette, parce que c'est le nom de cette pierre trouvée près d'Alexandrie. Et sur cette pierre, il y avait gravé trois textes, ou plus exactement le même texte, écrit en hiéroglyphe, écrit en démotique, c'est-à-dire la langue parlée dans l'Alexandrie de l'époque, et écrite en grec. Donc Champollion a passé beaucoup d'années de sa vie à essayer de faire les équivalences, les liens entre ces trois langues pour découvrir les hiéroglyphes. Il y est arrivé et c'est grâce à lui qu'on peut lire les hiéroglyphes.
Maintenant les sources
non écrites,
orales, voilà.
Alors les sources non écrites, il y a encore là deux catégories. Il y a la catégorie des sources non écrites dites orales et la catégorie des images. Alors, dans la catégorie des sources orales, il y a des traditions. Il y a des traditions qui font remonter l'histoire oralement. Si on regarde, par exemple, la Bible, il y a une tradition orale avant l'écriture de la Bible par la Grande Assemblée. Autre exemple, en Afrique noire, il n'existe pas de tradition écrite. Cependant, il y a une tradition orale. Et c'est ce qui permet de retracer l'histoire des Africains. Alors, ces gens qui transmettaient en Afrique l'histoire qu'ils avaient apprise par cœur, c'est ce qu'on appelle les griots. Et ça permet de remonter la nuit des temps pour raconter cette histoire. Ça, c'est l'histoire. Ce sont les sources orales, dites traditionnelles ou anciennes. Pour ce qui est de la période contemporaine, on fait appel de plus en plus à ce que l'on appelle des témoignages, des témoins. Le problème, c'est que deux témoins n'ont pas vu la même chose dans le même fait, parce que tout dépend de leur filtre. Et ensuite, quand ils vont raconter cette histoire, va jouer un troisième filtre. Alors, le premier filtre, c'est celui des sentiments, de la perception, de la position où l'on est. Et c'est un peu comme le chercheur qui observe quelque chose.
Absolument.
Hein. Mais se surajoute pour le témoin, quand il répète son témoignage, sa mémoire va jouer un troisième filtre. C'est-à-dire que très souvent, il raconte des choses qu'il n'a pas vécues parce que sa mémoire lui fait croire qu'il les a vécues. Et d'où la nécessité d'appliquer une méthodologie très très fine et très sûre pour pouvoir construire l'histoire. Et enfin, les sources non écrites qui arrivent après les sources orales ou en même temps, ce sont les images. Dans la catégorie des images, on peut donner plusieurs exemples. Par exemple, une photographie. Une photographie va en dire beaucoup si on sait la faire parler. Par exemple encore, tout ce que alors participe de ces images, de ces sources non écrites, tous les renseignements, toutes les traces archéologiques. Mmh. Elles ne parlent pas, à moins que ce soit des sources écrites, mais elles ne parlent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on fait appel à des spécialistes qui s'appellent les archéologues et qui vont essayer de reconstruire l'histoire du site qu'ils sont en train d'investir.
Alors, la presse, par exemple, je t'ai vu travailler beaucoup dans ton doctorat. J'ai vu que tu regardais aussi la presse de l'époque. Est-ce que ça fait partie des sources écrites ?
La presse, bien sûr. Bien sûr, ça fait partie des sources écrites, puisqu'on va analyser la presse. Alors là encore, il faut savoir interroger ce document, qui est un document brut. Mais là, ça fait partie de la méthode. Je crois que tu as réservé la méthode pour la deuxième partie de l'émission.
Donc, on a parlé des films, on a parlé des photos.
Film est aussi une source qui est devenue une source incontournable. Si je prends par exemple le film de Lanzmann qui s'appelle Shoah et qui dure très très longtemps, il interviewe des témoins qui ont vécu la Shoah. Ben, ce film, qui est un montage comme tous les films, est devenu une source archivistique, c'est-à-dire qu'on va retrouver des traces du passé, mais encore une fois, tout dépend de la manière dont on interroge ce film.
Et puis la manière aussi dont c'est écrit, je veux dire par là, on peut se reposer aussi la question de la vérité historique quand on regarde un film.
Ah oui, oui, absolument. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, c'est la mode d'avoir des documentaires. Et on a l'impression qu'avec un documentaire, on échappe à la critique. Pas du tout, parce qu'un documentaire peut être très bon s'il se fie à une méthode historique et très mauvais s'il fait parler les gens comme ça. On arrive à un discours café-commerce.
Tiens, je voulais aussi signaler, parce que j'ai vu il y a très récemment un article sur une revue de recherche qu'on est capable maintenant de faire parler les dents. Et il y a justement un paléoanthropologue qui a trouvé une dent qui avait plus de 40 000 ans et il a regardé son ADN parce que l'ADN dans les dents survit par rapport aux os et on a découvert énormément de choses, ce qui fait que maintenant, c'est une nouvelle voie. Beaucoup de paléontologues vont chercher à analyser ce qui se passe dans les dents. Paraît-il qu'on a des sources extraordinaires avec ça.
Absolument. On peut citer aussi le cas de la recherche d'ADN dans les momies égyptiennes ou de la recherche d'ADN dans les derniers squelettes trouvés datant de la préhistoire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à comprendre pourquoi l'homme de Néandertal avait disparu. Et en fait, il n'a pas disparu, il s'est mélangé à l'Homo sapiens.
Tout à fait.
Si bien que dans nos gènes, et ça c'est difficile à accepter pour certains, dans nos gènes, dans nos ADN, il y a une partie qui descend directement de l'homme de Néandertal.
Oui, on dit que pour les Européens, on a, je crois, 3 ou 4% de...
Oui, 3 ou 4%, voilà. Peut-être même un peu plus, selon le cas.
Voilà. Bien, eh bien, écoute, René, l'heure a passé. On est quasiment à la fin de cette émission. Et je te propose de revenir pour parler de la suite.
De la méthode.
De la méthode. D'accord. Et puis des exemples.
D'accord.
Chers amis, bonjour et à la semaine prochaine. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.